Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ok, on va continuer sur la vie d'Abraham.
Et
vous savez, Abraham, c'est vraiment sa vie est d'une immense richesse. Parce que c'est un homme qui a su marcher avec Dieu. Et vous savez, quand vous marchez avec Dieu, c'est une recherche incessante jusqu'au dernier jour de votre vie. La Bible nous dit que quand nous mourrons, nous connaîtrons parfaitement. Et la Bible nous dit aussi que nous connaîtrons comme nous avons été connus par Dieu. Donc ça, c'est des choses qui, bon, le jour où tu passeras, c'est-à-dire ce corps reste ici, ton esprit et ton âme vont monter au troisième ciel. Et là, vraiment, ta connaissance va se parfaire, ta connaissance de Dieu, parce que ton corps, aujourd'hui, c'est ce qui t'empêche de voir Dieu face à face. Mais sur cette terre, tu peux avoir une connaissance de Dieu très importante. Et cette connaissance de Dieu ne se dévoilera pas du jour au lendemain. Ça doit être une recherche de notre part. C'est-à-dire toujours avoir un désir de plus connaître. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez connaître de Dieu, mais vous ne pouvez pas sonder toute la profondeur de Dieu. Par contre, il y a certains domaines que Dieu veut nous révéler davantage au fur et à mesure de notre marche avec lui. Mais au début, on se révèle comme sauveur. Bon, voilà, tu découvres Jésus, Jésus c'est ton ami, Jésus c'est ton sauveur. Après, tu commences à découvrir que tu as un papa. Tu commences à apprendre à prier correctement. Certains, ils ne commencent jamais à prier correctement. Ils meurent sans vraiment savoir prier, mais bon, c'est autre chose. Mais tu commences à progresser. Et tu dois incessamment rechercher, c'est-à-dire d'une façon continue, rechercher Dieu. Parce qu'il y a toujours des choses que Dieu veut faire en plus, toujours en plus dans ta vie. Même si ce qui m'étonne chez certains chrétiens, des fois ils vivent certaines choses parce que vraiment ils prient, c'est vraiment un problème chez eux. Alors pendant des années ils vont prier par rapport à ça, ils vont parler la parole de Dieu, puis d'un seul coup, paf, il y a leur percée spirituelle. Et vraiment Dieu leur donne, leur montre, leur vraiment les satisfait dans le domaine pour lequel ils ont prié. Et ça résout un gros problème de leur vie. Ça peut être une maladie qui vraiment empoisonner leur vie. Ça peut être la solitude. Ça peut être un gros problème de caractère. Ça pouvait être un gros problème de finances. Etc. Et puis, d'un seul coup, la chose se résout. Dieu vraiment agit puissamment. Bon, c'est super, c'est merveilleux. Mais ne t'en arrête pas là. Il y a toujours plus avec Dieu. Ça, c'était pour te faire sortir de tes gros problèmes. Maintenant que tu puisses être de ceux qui vont construire une grande destinée. Donc tu dois chercher toujours la face de Dieu. Ne te contente pas des expériences que tu as faites. Ne te contente pas de ta connaissance. Mais cherche toujours plus loin. Il y a toujours plus à explorer avec Dieu. Parce que l'infini ne peut jamais être atteint.
Kubera yuko L'infini
n'est pas atteignable.
Donc
même si tu as vécu de grandes choses avec Dieu, il y a encore plus grand à vivre.
Il
y a encore plus à connaître.
Il
y a encore plus à chercher. Même si tu as rencontré l'amour de Dieu, eh bien, il y a un amour beaucoup plus grand que tu peux rencontrer. Même si Dieu t'a visité par sa paix d'une façon incroyable alors que tu étais au milieu de la détresse, il y a beaucoup plus grand. Même si Dieu t'a guéri, il y a beaucoup plus grand. Même si Dieu a pourvu à quelque chose de miraculeux pour toi, il y a encore plus grand. Et quand tu t'arrêtes à ce que tu as reçu, là tu fais une bêtise. C'est pourquoi Dieu va se révéler à nous d'une façon progressive.
Vous
voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans ce qu'on appelle la connaissance de Dieu. Il t'a sauvé, donc tu dis, je connais Dieu. La nature de Dieu est en toi. Tu es un enfant de Dieu. Ton salut est assuré. Tout ça, c'est très clair dans la parole. Mais maintenant, et bien voilà que tu progresses dans cette intimité divine.
Il
y a tellement de choses qui se passent dans ta vie que tu ne seras plus jamais le même. Et ça, doit être ta recherche. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Ils sauront quand ils vont te rencontrer alors qu'ils ne t'ont pas vu depuis 5 ou 10 ans. Bon, lui, on sait qu'il va être à peu près comme ça. Il aura peut-être un peu vieilli. Mais bon, en gros, je m'attends à ça quand je vais le voir. Il n'y a jamais des gens comme ça qui ne vous ont pas vu pendant des années. Ils vont dire, oh bah finalement, bah, bon, je ne suis pas surpris ou je ne suis pas surprise parce que apparemment tu es resté le même ou la même. Moi, je trouve que ce n'est pas un compliment, ça. Si tu restes le même ou la même, même si c'est dit d'une façon positive,
non,
normalement, tu devrais avoir très largement progressé avec toutes ces années. Les gens devraient être là, ils devraient te visiter et dire, c'est incroyable, c'est merveilleux. Tu as tellement progressé. Il y a tellement de choses qui ont changé d'abord chez toi. Et puis dans ta vie en général. Tu n'es plus du tout le même. C'est ça que Dieu veut. Et ça va demander une recherche de Dieu. Donc ne vous lassez jamais de chercher le Seigneur. Jamais. Le jour où tu es satisfait de là où tu es, c'est là où tu vas commencer à t'endormir spirituellement. Donc tu dois toujours chercher le Seigneur. C'est vrai qu'il y aura des périodes plus intenses de recherche. Il y aura des périodes plus calmes dans ta recherche. Mais tu dois toujours avancer. Répète après moi, Seigneur.
Seigneur,
je veux toujours avancer avec toi. Amen.
Amen.
Vous voyez, jamais reculer, jamais vous refroidir. Abraham, ce que j'aime, c'est que c'était un homme de cette trempe-là, de ce gabarit-là.
Abraham,
c'est un homme qui a commencé avec certaines choses où il avait des atouts dans sa vie, mais il y avait aussi des grands problèmes, des grands défis, entre autres le fait qu'il n'avait pas d'enfant. Mais quand on voit Abraham, on a l'impression que toujours il avance. Des fois, il avance doucement, mais il avance toujours. Des fois, comme nous l'avons vu, il a tourné en rond, mais il a quand même avancé. Il a avancé quelque part, même s'il tournait en rond. En résumé, il était toujours en mouvement quelque part. Et toi, ça doit être ta vie d'être toujours en mouvement. Toujours plus loin, toujours plus haut. C'est toujours ce que tu dois dire au Seigneur. Seigneur, je veux toujours aller plus loin avec toi, plus haut avec toi. Ça doit être ton désir.
Vaut
mieux avancer lentement, mais sûrement, mais toujours avancer. Que faire des pas de géant comme Samson? Samson, lui, il fonçait. Sauf qu'il s'est retrouvé victime de sa stupidité. Vaut mieux avancer lentement, mais sûrement et régulièrement. Vous connaissez cette histoire du lièvre et la tortue? Où le lièvre, donc, qui était supposé courir très vite, était en compétition avec une tortue. Et vous savez, la tortue, ça avance comme ça.
Tout doucement.
Et la fin de l'histoire, c'est que la tortue a gagné parce que le lièvre a fait n'importe quoi avec ce qu'il avait comme potentiel. C'est lui qui devait gagner très largement. Mais parce qu'il était prétentieux, parce qu'il pensait que lui, il avait toute la capacité d'y arriver très largement avant la tortue,
eh
bien, c'est la tortue qui a franchi la ligne d'arrivée avant lui. Pourquoi ? Parce que la tortue avançait doucement, mais elle avançait tout le temps. Alors que le lièvre fonçait, il s'arrêtait, il faisait n'importe quoi, et après il redémarrait. Parce qu'il était sûr de gagner et il a perdu. Abraham va avoir des caractéristiques qui lui ont permis de réussir sa destinée.
Ce
qui ne veut pas dire que ses caractéristiques, je dirais, il n'avait pas de défaut de caractère à côté, il en avait comme tout le monde. Mais on peut apprendre beaucoup de choses de la vie d'Abraham afin de pouvoir accomplir ce que Dieu va nous demander de faire. La première chose que nous avons vue, c'est qu'Abraham était un homme de foi. Dieu lui dit quelque chose et il le croit. Dieu lui avait promis de faire une grande nation, de le bénir.
Qu'il
deviendra une source de bénédiction. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est qu'Abraham était quelqu'un d'obéissant. Il y a trop de chrétiens qui se disent avoir la foi mais qui n'obéissent pas à Dieu. Tu n'es pas exonéré d'obéissance. La base, bien sûr, c'est d'avoir la foi avec la parole, mais tu dois agir et obéir. Et nous avons vu que quand Abraham va obéir dans la foi, il va y avoir une nouvelle révélation. Et là, Abraham va utiliser une troisième clé. Cette troisième clé, c'est l'adoration. Et je vous ai montré que si vous voulez réussir votre destinée, ces trois premières clés sont indispensables au départ. Il faut rapidement les obtenir. Être quelqu'un qui apprend à marcher dans la foi. Et des fois, ça demande des années et des années. Mais peu importe. Apprendre à être vraiment obéissant. Le cœur obéissant avancera toujours. Moi, j'ai vu des gens qui étaient très brillants, qui avaient une grande foi dans certains domaines, mais qui n'étaient pas obéissants à la parole de Dieu et à ce que Dieu leur disait de manière générale. L'obéissance est d'une grande valeur devant Dieu. Dieu préfère quelqu'un qui est obéissant et qui n'a pas beaucoup de potentiel au départ, plutôt que quelqu'un qui commence à compter sur lui, qui se dit avoir un grand potentiel et qui désobéit. Parce que ces gens-là gâchent leur destinée. La troisième chose, c'est évidemment l'adoration. Nous l'avons vu la dernière fois.
Et
ça, dans l'adoration, il y a vraiment des secrets extraordinaires qui nous permettent vraiment de pouvoir, je dirais, constamment en connexion avec Dieu. Et c'est important parce que cette connexion avec Dieu est indispensable. Ça nous donne la révélation. L'adoration amènera la révélation obligatoirement. Nous avons vu qu'aussi l'adoration est un refuge, une protection. On a vu aussi que l'adoration amène des directions. C'est clair. On sait, on se dit, ça y est, je sais ce que je dois faire. Et on a vu aussi que l'adoration influence nos choix. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, quand je dis qu'Abraham était obéissant, en général, il essayait vraiment d'obéir au Seigneur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de bêtises, parce qu'il en a fait. Et je vous rappelle que Dieu n'utilise pas des gens parfaits, c'est-à-dire ceux qui ne feront jamais de fautes. Les erreurs, nous en faisons tous et il va falloir les gérer, nous allons voir ça. Les erreurs vont nous coûter cher. Mais Dieu utilise des gens disponibles. Parce que quand vous êtes disponible, vous êtes prêt au changement. Vous êtes prêt à faire ce que le Seigneur vous demande. Ce qui ne veut pas dire que vous ne ferez pas vos erreurs. Parce que nous faisons tous nos erreurs. Et parfois des erreurs qui nous coûtent très cher. Des fois nous prenons de très mauvaises décisions. Et ça nous coûte cher. Et comme on est des bons chrétiens, on va voir Dieu en lui disant, Seigneur, Pourquoi t'as permis ça? Et ça sert à rien de prier comme ça. Si tu as fait des erreurs, tu dois apprendre à gérer tes erreurs.
Et
ensuite, tu vas apprendre de tes erreurs. Alors, nous avons vu qu'Abraham va faire une bêtise, il va aller en Égypte. Et je vous ai montré qu'à partir du moment où Dieu vous parle, ne pensez pas que tout va se passer comme ça, très bien, tout seul. Non, parfois il y aura de l'adversité, de la sérieuse adversité. Il y aura de l'adversité de votre caractère. Il y aura de l'adversité des circonstances. Et il y aura aussi des défis à relever. Donc des choses qui vous paraîtront des montagnes. Et là, Dieu lui dit de rester en Canaan.
Ouais.
Et qu'est-ce que Abraham fait, il y a une famine, il fuit. Pourquoi? Parce que la famine était forte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un autre terrain où il y a de quoi faire. Et on a vu qu'il a failli perdre ses promesses. Dieu a dû intervenir miraculeusement parce que le pharaon commençait à convoiter sa femme parce qu'il avait dit que c'était sa sœur. Et donc il faut faire attention. Il ne faut pas sortir du territoire de destinée. Être au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose est une clé indispensable. Dans laquelle il faut rester. Ça veut dire que vous avez la foi, vous avez obéi. Mais pour l'instant, rien ne se passe. Et il y a de l'adversité. Alors Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, le temps passe et c'est dur. Je ne vois pas mes promesses se réaliser. Et on a vu qu'il y a deux réactions à ça. Soit les gens partent et s'écartent de leur territoire de destinée, prennent de mauvaises décisions, et ça peut leur coûter toute leur destinée. L'autre chose que des gens font souvent aussi, c'est qu'ils se découragent. Ils sont là, ils sont découragés. Leur foi commence à être complètement bouffée. Ils commencent à s'endormir complètement spirituellement. Et ils vivent au ralenti, en hibernation. Comme s'ils étaient faibles tous les jours. Alors, on va reprendre le texte que nous avions lu la dernière fois pour terminer dans Genèse 13.
twatanguriye igice cy'icumi na gatatu.
Et on voit que Abraham au verset 1 est revenu au point de départ d'où il était parti.
Tubona Aburahamu ku murongo wa mbere agarutse aho
yari. Il a eu des ennuis, il a perdu du temps, il s'est écarté de son territoire de destinée, il a même perdu de l'argent parce que ça coûte cher de voyager.
Yahogize ingorane ava mu kibanza cy'umugisha wiwe aragenda byamutwaye amafaranga byamutwaye mwanya.
Mais il se retrouve au point de départ là d'où il était parti.
Ariko nguye aragarutse hamwe ho mu ntango yahagurukiye.
Je vous ai montré qu'il y a beaucoup de chrétiens qui tournent en rond, mais au moins il avançait quelque part.
Narabereye uko hari abakristo baguma muri vya bindi nyene mwa wewe araho yashitse.
Alors la Bible nous dit au verset 2, Abraham, je vous rappelle que on verra pourquoi il va s'appeler Abraham plus tard, était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Negev, c'est-à-dire, c'est le désert du sud d'Israël, jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, vous vous rappelez, entre Bethel et Aïe. À l'endroit où était l'autel, donc l'adoration, qu'il avait fait précédemment, et là, il invoqua le nom de l'Éternel. Lot, verset 5, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Vous aimeriez avoir quelqu'un à côté de vous, et le pays est tellement... est trop petit parce que vous avez trop de biens. Ça serait chouette quand même, non?
Iyumvire kugira ibintu byinshi gutunga cyane ku buryo igihugu cyose kitabakwira kubera ibintu mufise.
Vous avez tellement de biens que c'est pas possible de rester avec deux personnes qui sont à peu près de votre calibre au niveau prospérité.
Iyumvire kuba ahantu abantu babiri binanira kubana kubera ubutunzi ibintu batunze byanse kwakwiga.
La Bible nous dit qu'il était très riche.
Bivuga ngo yari umutunzi ahebuje.
Abraham était un homme qui a été béni par Dieu.
Kubera Imana yari yaramuhezagiye.
Nous verrons qu'à partir du moment où vous savez marcher avec Dieu,
tuzobona yuko yugendana n'Imana,
vous ne pouvez pas rester pauvre.
Ntushobora kuguma mu bukene.
Là, obligatoirement, quand vous connaissez Dieu,
byankavyakunze iyo wamenye
Imana, il y a quelque chose qui doit se débloquer et qui doit déborder même dans vos finances.
Hari kintu kiza mu buzima bwawe cy'umugisha kikava muri wowe kikajana no mu mafaranga yawe.
Donc la Bible nous dit le pays était insuffisant, verset 6, pour qu'ils restent ensemble car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient rester ensemble.
Icyo gihugu nticabakwira ngo babangikane kuko itunga ryabo ryari ryinshi bituma badashobora kubangikana.
Il y eut une querelle, donc dispute, entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi, regardez bien cette expression, nous allons en parler ce soir. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit, donc ça voulait dire que c'était très fertile. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Tu peux lire du verset 9 au verset 13.
Baravuga ku murongo w'icenda ngo erega igihugu cyose kiri imbere yawe ndakwingize ngo duhane inta. Niwahitamo kujiba umoso nanje ndaje buryo niwaje buryo ndaje bumoso roti unamura amaso yitegereza kiyaya cyose cyo kuri Yorodani abona ko hari ibigera by'amazi hose uhoraho atararandura Sodomu na Gomora ico kiyaya cyari kimeze nka ryatongo ry'uhoraho canke nk'igihugu cya Egiputa ugiye werekeye isowari nuko roti ahitamo ico kiyaya cyose cyo kuri Yorodani aragenda aje burasirazuba bahana inta Aburahamu aba mu gihugu cy'i Kanani Loti aba mu bisagara byo muri Cakiyaye agenda arunguruza amahema arinda shika i Sodomu kandi abanyesodomu bari abanyabyaha bacumura kuhoraho birengeje urugero.
Alors il y a beaucoup de choses à dire dans ce texte.
Muri iki gice dusome hari ibintu byinshi umuntu yovuga.
D'abord on voit que quand quelqu'un est proche de quelqu'un d'autre qui est loin,
ikintu cya mbere kiboneka ni uko iyo umuntu yegereye umuntu asize amavuta,
il y a une bénédiction particulière.
Hari umugisha udasanzwe umubako.
Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce principe.
Iki kintu hari abantu benshi batagitahura.
Quand tu es proche de quelqu'un qui est loin, qui est béni par Dieu,
iyo wegereye umuntu asizwe amavuta hezagiwe
n'Imana, et tu as une relation forte avec cette personne,
ukagira imigenderanire ikomeye n'uyo muntu,
obligatoirement il y a quelque chose qui va déborder sur toi.
Byanga byakunze hari ikintu kikutemba ko nawe.
Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre.
Iki ni ikintu by'ukuri mukwiye gutahura.
Ça fonctionne dans beaucoup de domaines de la vie spirituelle. Et il y a beaucoup de gens qui justement pensent que parce que des fois ils sont arrivés à un certain niveau,
qu'ils
n'ont plus besoin d'être proches. Et il coupe le cordon ombilical.
Et
très souvent, on le voit par exemple dans des gens qui ont des appels pour le ministère. Je vais vous donner un exemple tout à fait typique qu'on peut voir. Et après, on reviendra à l'exemple de Lot. Très souvent, vous avez des gens qui ont des appels pour le ministère. Et ils sont là, ils servent les personnes ou la personne qui est ointe. Et au bout d'un moment, ils progressent dans leur vie spirituelle.
Et
ils ont l'occasion de servir le Seigneur. Et toujours, ils pensent plan B. Quand est-ce que moi je serai le chef? Quand est-ce que ce sera mon ministère? Et je peux vous dire une chose, je l'ai vu à maintes et maintes et maintes et maintes reprises. Quand la personne commence à se séparer, d'un seul coup, c'est la dégringolade spirituellement parlant. Parce qu'ils ne comprennent pas le principe d'engendrement. Ici, Lot était ultra béni financièrement. Pourquoi ? Parce que c'était lui qui marchait vraiment avec Dieu ? Non, je crois pas. Parce que vu ce qu'il va faire avec sa vie quelque temps après, on sentait que Lot avec Dieu, c'était pas tout à fait ça, comme on dit si bien. Pourtant, Dieu l'avait placé d'une façon incroyable auprès de l'homme qui a reçu la plus grande promesse qu'aucun homme n'ait jamais reçu sur la terre. Vous savez, les choses que Dieu fait parfois, on nous place des endroits où Dieu nous place parfois, que des gens méprisent. On voyait que Lot n'avait aucune intelligence sur le monde spirituel. Lot était béni. Parce qu'il était proche d'Abraham. Tant qu'il était tout proche
d'Abraham,
il bénéficiait de son onction. Il bénissait Abraham. Il bénissait, Lot bénissait Abraham. La Bible, rappelez-vous, verset 3 du chapitre 12, disait, Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Lot était quelqu'un qui était proche, c'était le neveu. C'est vrai que c'était une affiliation parentale, familiale. Mais au travers de cela, comme il était parti avec Abraham, il a pu prospérer. Comme disait Raoul Wafo, d'une façon insolente. Et en fait, on s'aperçoit que vraiment, Lot bénéficiait de ce qu'il y avait sur Abraham. De sa bénédiction. Il y a tellement de gens qui ne comprennent pas ce principe. Quand on est proche de quelqu'un qui est
oint,
obligatoirement, il y a quelque chose qui est déversé sur nous. À partir du moment où on a une attitude positive. Regardez, Élisée a reçu l'onction d'Élie. Il était au bénéfice de cette onction qui était là, et après cette onction est venue sur lui dans le ministère. Mais il y a plein d'exemples de gens qui ont suivi des leaders qui étaient loin par Dieu, qui étaient bénis. Ces gens qui suivaient ont été bénis. Parce que l'onction va se déverser sur ces personnes. Et ces gens vont être touchés d'une façon spéciale. Ils vont être transformés. Et leurs situations sont transformées. Et ça, c'est formidable.
C'est
un principe divin
que
l'on voit déjà dans la Genèse. Abraham était là, il marchait avec Dieu. Il y avait une immense bénédiction financière sur lui. Et ça débordait. Ça a débordé sur Lot. Mais il y a eu un incident. Et là, on voit le caractère exceptionnel d'Abraham. Abraham voit qu'apparemment, la gestion commence à être difficile, la gestion relationnelle. Donc, il va dire des choses à Lot. Mais Abraham va montrer vraiment ce qu'il y a dans son cœur. Si vous voulez réussir votre destinée, ce n'est pas vos dons que Dieu va regarder. Ce n'est pas votre éloquence. Peut-être votre belle voix ou comment vous savez jouer d'un instrument. À vos études. À la famille d'où vous venez. Non, Dieu regardera une seule chose. Ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que Dieu fonctionne avec le cœur. Quand le cœur est bon, parfois on peut passer par des moments difficiles pour être transformé. Mais une chose est sûre, c'est que des gens qui ont un bon cœur font toujours beaucoup de chemin avec le Seigneur. Et on voit ici
Abraham
qui est très clair avec Lot. Je pense que la majorité d'entre nous, on n'aurait pas fait ce que Abraham a fait. Il parle à Lot. Et il lui donne le choix. Il lui donne un choix. Il lui dit, bon, c'est vrai, il faut qu'on se sépare, il y a trop de biens maintenant. Vous savez, Abraham avait cette qualité d'être un homme de paix. À maintes reprises, nous allons le voir d'ailleurs dans la Bible. Les gens à histoire ne réussissent pas leur destinée. Si
t'es
quelqu'un de conflictuel, si t'es quelqu'un qui n'aime pas être en paix avec les autres, mais t'es toujours, à chaque fois que t'es dans un groupe de personnes, il y a toujours des histoires avec toi, c'est que tu as un problème sérieux.
Et
il faut vraiment que tu changes parce que les gens qui ont tout le temps cette histoire de querelle, de créer des problèmes aux autres, de mal parler sur les autres, d'être des gens à histoire, ce
ne
sont pas des gens que Dieu peut amener dans une grande destinée. La Bible nous dit quelque chose dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12.
Romains chapitre
12. Je suis en train de rechercher mon verset. Oui, Romains 12, verset 18. La parole de Dieu va nous montrer quelque chose d'important. Elle va nous dire, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, il est important dans votre vie spirituelle d'être quelqu'un qui aime la paix avec les autres. Les gens qui ont toujours cette mentalité guerrière à vouloir se bagarrer.
Vous
voyez, là, Abraham, il aurait pu dire, écoute, mon petit Lot, moi, on est sorti de la maison de mon père, c'est moi qui t'ai embarqué avec moi. Il y en a marre de tes histoires avec tes ouvriers, là, avec tes travailleurs. Écoute, tu t'écartes, tu vas vivre je ne sais où. Je ne veux même pas le savoir. Mais laisse-moi tranquille, je prends le meilleur du coin. Non, Abraham a vu qu'il était difficile de gérer la situation. Apparemment, il y avait des conflits réguliers. C'était des histoires de berger. Abraham était un homme de paix, il voulait la paix. Et c'est très important, frères et sœurs. de créer les environnements de paix. Si vous êtes leader quelque part, créez un environnement de paix autour de vous. Même si vous devez perdre certains intérêts. C'est là où on voit le cœur d'Abraham. Il a été capable de perdre des intérêts. Et il a dit à Lot, prends la partie que tu veux. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Tu vas au nord, je vais au sud. Tu vas au sud, je vais au nord. On doit se séparer. Et nous allons parler de la séparation maintenant. Mais Abraham va laisser le choix alors qu'il était le leader. C'est très fair play, comme on dit si bien. La plupart des leaders n'auraient pas fait ce qu'Abraham a fait. Mais on va voir le cœur d'Abraham et on verra le cœur de Lot. Dans le choix que Lot va faire. Et on va découvrir ce que c'est qu'un opportuniste et on va voir la ruine de l'opportuniste. D'abord, j'aimerais parler de la séparation. La Bible nous dit clairement, verset 9, tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. La fin du verset 11, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Vous savez, il y a parfois certaines relations qui nous empoisonnent la vie. Qui parfois nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. D'autres fois qui nous empêchent d'avancer avec d'autres personnes. Ou d'autres fois encore, qui peuvent même créer des histoires dans nos finances, dans toutes sortes de choses dans notre vie. Et il y a des moments où nous devons nous séparer. S'il y a quelqu'un qui constamment crée du désordre dans ta vie, des querelles, tu es en droit de te séparer de cette personne. C'est pas pour ça que tu dois la diaboliser. Ça sera la différence entre se séparer de quelqu'un et se diviser avec quelqu'un, si on peut s'exprimer ainsi. La séparation est biblique. La division n'est pas biblique. Parce que la division, c'est des personnes qui deviennent des ennemis. La séparation, c'est dire, bon, bah, apparemment, on ne peut pas vivre ensemble, proches l'un de l'autre. Ça crée trop de conflits. Moi je vais à droite, toi tu vas à gauche si tu veux. Ou si tu veux aller à droite, tu vas à droite. Et
vous
voyez, là, Abraham a résolu le problème très rapidement. Parce qu'il y a des fois, on essaie de résoudre certains problèmes avec des gens querelleurs, mais c'est ancré en eux. Je ne sais pas pourquoi. Il y a même des chrétiens qui sont comme
ça.
Je connais même des serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Ils
ne
peuvent pas mettre leur nez quelque part sans qu'au bout d'un moment, dans les relations, il y ait des querelles. Et ça, ce n'est pas bon du tout. On doit apprendre à vivre en paix dans la mesure où ça dépend de nous, frères et sœurs. Et il y a des temps où des fois, on doit carrément couper. Et dire, ok, c'est bon, ça va, on n'arrive pas à s'accorder, c'est bon. On a des visions différentes. Par exemple, si vous êtes dans le business associé avec des gens, et qu'il y a constamment des querelles, vous perdrez beaucoup plus d'argent à rester ensemble jusqu'à temps que tout éclate en mille morceaux, plutôt que de prendre une décision plus précoce en disant c'est bon, apparemment on n'arrive pas à s'accorder, ça va. On a des visions très différentes sur les choses. C'est bon, on va se séparer. Dans la paix, Et chacun va de son côté. La Bible n'est pas contre ça. Par contre, la Bible est contre la division. Et en général, quand il y a la division, c'est que ça a vraiment pété relationnellement. Que là, plus rien n'est gérable, donc ça explose et là, ça divise. Et bien sûr, en arriver là, il y a quelque chose d'extrêmement mauvais. C'est pourquoi parfois, il faut savoir, dans nos vies, prendre un certain nombre de décisions qui ne sont pas faciles parfois à prendre. Des fois, c'est même des membres de la famille.
Où
on doit prendre des distances afin des fois de se protéger. Vous savez, l'amour, c'est se protéger aussi. Il y a des gens qui disent, sous le prétexte de l'amour, qu'ils supportent tout et n'importe quoi. À ce moment-là, c'est plus de l'amour, c'est de la faiblesse. Et la Bible ne dit pas ça. Il y a des temps où il faut savoir prendre ses décisions pour éviter justement que ça aille trop loin. Parce que parfois, nous trouvons des gens qui profitent complètement, qui créent des querelles, qui créent des histoires partout. Et je vous dis, ces gens-là, il faut s'en écarter. Tu as une destinée. Sinon, tu n'accompliras jamais ta destinée. Donc, Abraham ne va pas hésiter à se séparer. Ce qui ne veut pas dire qu'une séparation est forcément définitive. On va regarder un exemple avec Paul et Marc. Dans Acte 13, on va voir ce principe et on va voir comment, quelques années plus tard, la relation avait été renouée. Mais il y a des moments, vous savez, relationnellement, il faut savoir prendre ses distances. Se laisser empoisonner toute sa vie, ce n'est pas normal. Il y a vraiment des temps où tu dois savoir prendre des distances quand une personne n'est pas capable de gérer correctement la relation avec toi. Je trouve que vous êtes trop silencieux. Il y en a certains, vous êtes en train de méditer sur vous-même, c'est très bien. Parce que vous savez, il y a des choses relationnellement parfois qu'on doit faire. Parce que des fois, on ne les fait pas et on se retrouve vraiment avec de très, très graves ennuis.
Bon,
il y a des temps où tu dois prendre des résolutions. Voilà. Là, c'est l'exemple de Paul qui est dans son premier voyage missionnaire. Paul et Barnabas sont partis ensemble. Et la Bible nous dit, au acte 13, verset 13, donc ils avaient pris aussi Marc, qui était le cousin de Barnabas. Et il est dit, de Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge en Pamphylie. Jean-Marc, se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Bon, pour résumer, on est dans le premier voyage missionnaire de Paul.
Donc,
Paul et Barnabas sont en pleine activité. Ils ont pris Marc, qui devait être assez jeune. Et on ne sait pas pourquoi, à un moment, Marc a eu un problème. Il n'a pas supporté de rester avec eux. Je ne sais pas, il y a peut-être trop de pression. On ne sait pas exactement.
Oui,
il avait peut-être pas forcément un bon caractère. Et alors que Paul et Barnabas comptaient sur lui,
eh
bien, Marc va partir.
Il
repart sur Jérusalem. Alors, Paul et Barnabas continuent. Ils vont créer 7 églises pendant ce premier voyage missionnaire. Et quand ils vont revenir donc dans la ville d'Antioche, de là où ils étaient partis, ils vont repartir quelques temps plus tard pour un deuxième voyage missionnaire. Vous trouverez ça à la fin du chapitre 15. Et là, il va y avoir un incident qui va se créer. Alors, il est dit au verset 36, acte 15. Acte 15, 36. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, c'est pour le deuxième voyage missionnaire, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » C'est-à-dire, on a fait un premier voyage missionnaire, on est revenu, maintenant repartons encore et on va déjà les visiter. Barnabas voulait prendre aussi avec eux, Jean surnommé Marc, donc son cousin. Mais Paul, regardez bien, estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Acte 13, 13, et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment, c'est-à-dire cette dispute fut assez aigre, c'est-à-dire vraiment c'était dur dur, que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarquèrent pour Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Ils traversèrent la Syrie, la Cilicie en affermissant les églises. Tu peux lire verset 37 jusqu'au verset 39 s'il te plaît. Merci.
Barnabas kuva mu rongo 37 agomba ko bajana na Yohana nawe ariwe Mariko. Ariko Paulo ntivyamubera vyiza kujana n'umuntu yabataye ipamfiria ntajane nabo muri ico gikorwa. Havyuka imitongano ibatera gutandukana. Barunaba ajana Mariko avudukayo ari mu bwato afata ikupuro. Paulo nawe atoranya Sila avayo. Bene data bamaze kumudagiza ubuntu bw'umwami Yesu aca Isiria n'Ikirikiya aremesha amashengero.
Alors ici on voit que il y a eu un problème relationnel à cause de Marc. Marc apparemment était quelqu'un qui ça n'allait pas bien. C'était peut-être un manque de maturité. C'était peut-être quelqu'un qui avait un problème de caractère. En tout cas, Paul a dit ah, il nous a lâchés là, en plein milieu du travail. C'est hors de question de continuer pour l'instant avec lui. Et Barnabas voulait tellement mettre son cousin pour le faire œuvrer. Paul a dit non, et au bout d'un moment, ça a été même jusqu'à. Ils se sont même disputés entre eux. Et là, la Bible nous dit qu'ils se séparèrent. Donc, il y a des moments, parfois, malheureusement, dans notre vie, il peut y avoir comme ça, et des fois, c'est de notre faute. Des moments où l'un prend un chemin et l'autre prend un autre chemin. Et comme je vous le disais, ce n'est pas forcément définitif. Des fois, ça peut l'être. Où tu sens que bon, tu n'as plus rien à faire, tu n'as pas de destinée commune avec cette personne, tu vois que c'est une personne conflictuelle autour de toi constamment. Bon, tu prends une décision difficile. Plus l'engagement est fort, bien sûr, plus la décision est difficile. Mais par exemple, on voit bien plus tard, dans Colossiens 4, verset 10, que Paul va avoir une bonne relation avec Marc, mais bien plus tard. Dans Colossiens 4, 10, la Bible nous dit, et ça va se passer environ 10 ans plus tard, c'était pendant le troisième voyage missionnaire.
10
ans après cet incident de séparation, Paul va dire Aristarque, mon compagnon de captivité, parce que Paul était en prison quand il a écrit Colosse, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil.
Aristarque, uwo dusangiye umunyororo arabatasha, na Mariko mwene se wabo wa Barunaba arabatasha, umwe mwabwirizwa ivyiwe ngo niyaramukaje iwanyu muze mu mwakire.
Donc on voit que Paul commence à recommander Marc 10 ans après.
Urabona ko imyaka 10 iheze Paulo avuga neza Mariko.
Alors que franchement, il voulait plus vraiment entendre parler au début des voyages missionnaires.
Kandi mu ntango bagitangura ingendo zivuga butumwa atagomba kumva ivyiwe.
Donc parfois, on est obligé de se séparer de certaines personnes qui peuvent changer plus tard.
Harigero sobora kwitandukanya n'abantu bashobora mu nyuma guhinduka.
Rappelez-vous, vous ne pouvez pas fermer définitivement la porte à quelqu'un parce que vous avez eu un certain problème relationnel. Maintenant, bien sûr, dans les relations, quand vous avez quelqu'un qui vous mord régulièrement, là, vous avez plutôt intérêt à vous protéger, sinon il continuera à vous mordre. Donc quelqu'un vous mord une fois, ça peut aller. Tu dis, tu m'as mordu. Comme un certain joueur de football, paraît-il, dans la Coupe du Monde, c'est ça, j'ai entendu parler de ça. Il y avait un mordeur. Il a mordu quelqu'un, un autre joueur ici. Et en fait, bon, alors quand quelqu'un vous fait du mal relationnellement comme ça, bon, c'est normal, il faut pardonner. Bon, et vous leur donnez une autre chance. Puis des fois, il va recommencer parce que le problème est vraiment ancré en lui. Alors il va vous mordre une deuxième fois. Là, vous pouvez toujours pardonner, mais là vous avez intérêt à être prudent. Quand vous voyez qu'il s'approche trop, il faut faire attention parce qu'il risque encore de vous mordre une troisième fois. Alors si vous êtes sage, là, vous allez commencer à prendre une certaine distance afin que cette personne ne s'approche pas trop de vous. Parce que vous ne voulez pas être mordu encore une fois. Et c'est normal, vous avez le droit de le faire. Et si cette personne s'approche trop et qu'elle s'approche en voulant vous mordre encore, là, il faut vraiment mettre une barrière. Un gros grillage bien fermé et bien haut. De telle façon qu'elle soit tenue à distance. Ce n'est pas un manque d'amour, mais c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Parce qu'il y a malheureusement des gens comme ça qui vont constamment venir vous blesser sinon. Et vous savez, dans les relations, il faut avoir de la sagesse. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne forcément. Mais vous êtes devenu un peu plus sage, avec un peu plus de maturité et un peu plus prudent. Vous devez apprendre aussi à vous protéger, frères et sœurs. C'est tout à fait normal. Parce que sinon, vous allez marcher de ce qu'on appelle dans la naïveté. Et vous risquez d'être détruit quelque part. Donc, il y a certaines protections que vous devez mettre autour de vous. J'espère, dis à ton voisin, j'espère que toi, tu ne mords pas. Parce que tu es proche de moi, c'est ton voisin, tu dis fais attention.
Hein.
Faut faire attention, frères et sœurs. Il y a malheureusement des gens qui sont comme ça. Donc la paix est quelque chose d'indispensable. Paul, 4 ans plus tard, donc 14 ans après le premier incident, va largement considérer Marc. Regardons dans 2 Timothée chapitre 4.
2 Timothée 4:11,
on voit 14 ans plus tard. Après l'incident,
vous
voyez, on voit que Paul laissait une deuxième chance aux gens. Non, parce qu'il y a des gens, ils sont terribles, ils ont des problèmes personnels. Quand ils se sont fait mordre une fois, c'est fini. Ils disent, celui-là, je ne veux plus jamais en parler.
Ça,
ce n'est pas biblique. Ça montre un manque de pardon. Un manque de compréhension des relations. Et si tu ne laisses qu'une chance aux gens, méfie-toi parce que Dieu ne te laissera qu'une chance aussi. Donc apprends à être quelqu'un qui pardonne, qui redonne une chance. Par contre, si tu vois que la personne a vraiment un problème chronique dans son caractère,
ou
elle est prête à recommencer, que ça va mal se terminer encore et tu le sais d'avance, tu mets une certaine distance. Comme ça, tu es tranquille. Et si tu vois après qu'elle a vraiment changé, à ce moment-là, tu ouvres à nouveau la porte. Parce que tu verras une vraie repentance. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un vous demande pardon qu'il se repent. Hein. Parce que la plupart des gens ont cette mentalité-là. Pardon, mais je suis prêt à recommencer tout de suite. Et ça, vous devez vous en méfier. C'est normal. Si quelqu'un vous a vraiment fait mal, il faut vraiment qu'il montre des signes d'une vraie repentance, d'un changement réel. Pas qu'il vous dise, oui, tu sais, j'ai changé, bla 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 bla. Parce que ces gens-là, on en a beaucoup. Sauf que le problème, c'est que c'est des gens qui ne changent pas réellement. Un vrai changement va se voir avec des actions précises. Et à ce moment-là, si tu vois que la personne a vraiment changé, tu peux lui réouvrir les portes.
Mais
ne le fais pas si la personne ne s'est pas sincèrement repentie. Parce que beaucoup de gens s'excusent quand il y a un problème relationnel. Oh, je m'excuse. Je vous rappelle que l'excuse, c'est pour se couvrir, parce qu'ils voient qu'ils vont perdre quelque chose. Et ne sois jamais comme ça. En disant, oui, je m'excuse. Parce que ça veut dire, je m'excuse parce que finalement, je vois que tu es un peu fâché et je vais perdre des intérêts. Ça, ce n'est pas biblique du tout. Et c'est pareil quand les gens disent, oh, je demande pardon. Ok, ça, tu peux accepter. Mais tu dois mettre sous observation. Ça veut dire, regarde si la personne sincèrement a d'abord demandé un pardon sincère ou c'est parce qu'elle voulait restaurer la relation parce qu'elle sait encore qu'elle va perdre des intérêts. Il y a trop de gens qui fonctionnent avec des relations d'intérêt. Et vous voyez, le problème, c'est que comme ils fonctionnent comme ça avec les gens, ils font la même chose, ils transposent ça avec Dieu. Et quand ils transposent ça avec Dieu, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne réussissent pas avec le Seigneur. Parce que ce qu'ils font avec les gens, les hommes, ils pensent qu'ils peuvent le faire avec Dieu. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Tu peux tromper les hommes, tu peux essayer de manipuler les gens, leur faire croire tout un tas de trucs, mais tu
ne
peux pas faire ça avec Dieu. Parce que le Seigneur connaît le fond de ton cœur, il connaît le fond de mon cœur. Mais il y a tellement de gens qui sont dans des relations d'intérêt, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux soutirer de l'autre. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il aime une autre personne et il veut se marier. Et en fait, vous savez, parfois, quand vous voulez vous marier, il faut que vous appreniez à écouter les gens qui sont autour de vous. C'est vrai qu'il y a des jaloux. Et quand tu vois les ishali, là tu leur fais bouh, jaloux. Ça, tu t'en fous des jaloux. Mais il y a des gens qui te diront la vérité. Qui te diront, tu sais, par exemple, lui, c'est surtout les garçons qui ont des intérêts chez les filles. Surtout si elle a des économies. Fais gaffe de ne pas te faire manger tes économies. Mais soyons bien clairs, souvent c'est un problème d'intérêt. Il y a des gens qui se marient et qui regardent qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en se mariant. Je vais rentrer dans une grande famille bien connue ici. Mets une croix sur ça. Ça, c'est le mariage qui finira pourri. Oh, il a beaucoup d'argent. Je vais me marier parce qu'il a beaucoup d'argent. Pourri. Les gens regardent ce qu'ils peuvent avoir, ce qu'ils peuvent soutirer comme intérêt. Et quand les gens font ça, je te garantis, si tu es fiancé et que quelqu'un ou plusieurs personnes te disent ça, écoute avec tes oreilles et avec ton cœur, parce que là tu es en train de te faire avoir. Et il y a des gens comme ça qui se font avoir. Ils
ne
veulent rien écouter parce qu'on dit souvent que l'amour aveugle. Ou parfois il y a des choses, vous savez, tu veux faire du business avec quelqu'un. Et tu rencontres certaines personnes qui te disent, tu sais, tu ferais mieux de faire attention. Non, moi j'ai signé tous les contrats chez le notaire. Mais il s'en fout du notaire, l'autre. Le jour où tu lui donneras l'argent, il fuira. Et le notaire, il n'en aura rien à faire. Et tu te seras fait rouler. Combien de fois on s'est fait rouler? Parce qu'on n'a pas entendu, on n'a pas écouté certaines personnes qui nous disaient certaines choses.
Mais
on était tellement aveuglés par l'intérêt qu'on allait en tirer. Et on s'est fait avoir. Donc, vous savez, il faut apprendre dans les relations à faire attention. C'est-à-dire que ce soit équilibré. Si
tu
es le type de personne qui veut toujours pomper des autres, chercher des intérêts chez l'autre, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans un truc financier, que ce soit dans toutes sortes de choses, parce que l'autre va pouvoir t'aider, parce que c'est son... Il t'aime bien, soi-disant, parce que finalement, ton oncle, c'est le ministre. En fait, il
ne
t'aime pas bien. Ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir, au travers de toi, avoir accès au ministre pour aller demander quelque chose. Les gens sont remplis de trucs comme ça. Je vais vous dire une chose, des gens qui sont comme ça ne réussissent jamais avec Dieu. C'est vraiment avoir une mentalité qui est tordue, qui est charnelle et qui est diabolique. Nettoie tes relations et apprends à arrêter de chercher qu'est-ce que je peux soutirer chez l'autre. Et quand des gens essayent de rentrer en relation avec toi, quel que soit le niveau de relation, apprends aussi à sonder leur cœur. Est-ce qu'ils sont juste là parce qu'ils vont soutirer des intérêts chez toi? Si c'est ça, c'est même pas la peine d'avoir ça. Tu ne verras rien se produire de la part de Dieu. Et tu risques de te laisser séduire parce que tu es dans un truc bizarre. Paul savait discerner les cœurs. 14 ans plus tard, 2 Timothée 4, verset 11. Paul est en prison, il sait que c'est bientôt sa fin. Il est passé par des moments difficiles, abandonné de tous. Et c'était pas facile pour lui.
Et
il va dire au verset 11, Luc est seul avec moi. Luc, le médecin qui a écrit l'évangile de Luc et les actes, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le ministère. Voyez, donc on voit vraiment une progression dans cette relation entre Paul et Marc. Au début, ça pète et ils se séparent. Ça amène un problème entre Barnabas et Paul. Mais 10 ans plus tard, déjà, on voit Colossiens, que Marc, quand même, c'est quelqu'un qui est recommandable. Et Paul le recommande, il dit voilà, accueillez-le correctement dans l'église de Colosse. Et 14 ans plus tard, après l'incident, on voit que Paul dit non, Marc m'est très utile pour le ministère. Donc on voit vraiment cette restauration dans la relation, cette deuxième chance que Paul a donnée à Marc. Alors revenons à Abraham, parce qu'on s'en est écarté, mais c'est normal. Donc Abraham est là et Abraham donne à Lot, alors qu'Abraham était en position d'autorité, il était en position de supériorité. Il dit ok, pour la paix de tout le monde, on va se séparer. Prends ce que tu veux, l'endroit où tu veux te mettre, moi j'irai de l'autre côté. Et là, Lot va faire une grosse gaffe.
Alors, Lot, acara ko ikosa rikomeye.
Et là, on va parler de l'opportunisme. Parce que vraiment, là, vous savez, frères et sœurs, il y a des gens qui ont ce défaut-là et Abraham ne l'avait pas du tout. Alors, là, Lot va lever les yeux verset 10 et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée.
Groti unamura maso yitegereza ikiyaya cyose cyo kuri Yorodani abona ko hari ibigera by'amazi mense.
C'était vraiment un endroit qui était très arrosé, cette plaine du Jourdain, très fertile.
Harahanu hamera haramazi menshi hose.
C'était vraiment à première vue le meilleur endroit.
Ukihitegereza nta handi ho kuba haraho nyene niho
hari. À première vue selon la chair. Parce qu'il y avait un mais. Il y avait, comme on dit en français, un bémol. Vous savez, c'est comme les gens qui chantent juste et d'un seul coup, ils commencent à détonner. Ça fait horrible dans les oreilles. Ici, vous dites quand les gens chantent dièse. Mais on dit quand les gens chantent faux, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne chantent pas dans le ton de la musique. Et quand vous avez une oreille un temps soit peu musicale, tout de suite, ça fait à vos oreilles. Ça les arrache.
Iyo umuntu rero afise ijwi yumva umuziki abantu ngene baririmba karamujya ko kantu.
Le grand problème qu'il y avait, c'était beau la plaine du Jourdain. Des gens qui vivaient comme des nomades, qui ont traversé les déserts, qui ont été en Égypte, qui sont revenus. Qui avaient beaucoup d'animaux. Le rêve, c'est quoi? D'avoir des endroits où il y a de l'eau. D'avoir des endroits où tout pousse et il y a de l'ombre aussi. Donc la plaine du Jourdain, le Jourdain c'est la rivière qui traverse Israël là. Ouf. Qui arrose toute cette plaine. Comme en Égypte avec le Nil. Vous vous écartez de quelques kilomètres du Nil et d'un seul coup c'est le désert en Égypte. Et c'est le même problème avec le Jourdain. Donc Lot va faire quoi? Il va regarder. Et dans le naturel, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Mais dans le spirituel, c'est ce qu'il y avait de pire. Et la Bible nous donne juste un petit verset. Vous savez, ça c'est Dieu dans sa parole. Tout était très beau, blablabla. Et puis il y a un petit verset qui commence à nous mettre un goût très amer. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs devant l'Éternel. Donc dans cette plaine du Jourdain, il y avait au bout du Jourdain, il y a au sud, donc il y a ce qu'on appelle la mer morte, la mer salée. Et au sud de cette mer morte, la mer salée, il y avait deux villes, Sodome et
Gomorrhe.
Et on passera, je vous montrerai quelques cartes pour que vous ayez quelques images dans vos têtes. Tout était parfait. Sauf le principal. Et ça, c'est les opportunistes. Un opportuniste, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va sauter sur une occasion. C'est quelqu'un en fait qui va rapidement raisonner dans sa tête. En fait, c'est quelqu'un, il y a cinq caractéristiques des opportunistes. La première caractéristique,
ikintu cya mbere
c'est que c'est quelqu'un qui est très calculateur.
N'abantu babaharuzi baharura cyane.
Il a une calculatrice électronique dans la cervelle.
Bafise agaharuzi mu mutwe gakomeye cyane bagira imibare mu gani w'abanyarwanda.
Et alors il est tout le temps en train de réfléchir.
Aguma ariko ariyumvira.
Et il ne prendra jamais une ferme décision tout de suite.
Nigera fata ingingo ishikamye ubwo nyene.
Il réfléchit. C'est comme un ordinateur. Comme ça. Il a plusieurs possibilités. Et la danse tourne très vite au moment où il doit prendre sa décision. Et en général, il prend sa décision à la dernière seconde. Parce qu'il est basé sur quelque chose. Son calcul, c'est quel va être le plus gros montant que je vais toucher. Donc en fait, il va garder son choix jusqu'à la dernière minute. Il va cacher le résultat, les résultats de sa calculatrice électronique. Et il va comparer les résultats.
Et
évidemment, le résultat le plus élevé, c'est l'option qu'il prendra. Donc il vient vers vous, il vous dit, oui, tu vois, bla 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 bla. Il essaye de te convaincre. Il veut savoir quel va être son intérêt majeur là-dedans. Mais il ne t'a pas dit qu'il a fait la même chose avec une, deux, trois ou quatre autres personnes. Si tu lui offres peu, il a l'air de dire, ouais, ouais, bon, ok, d'accord. Ensuite, tu ne le vois pas, tu vas aller le chercher. Il va faire semblant de ne plus être très intéressé. Il va dire, mais tu sais, à côté, le résultat est bien plus grand. Alors toi, tu vas monter ton offre. Et il va aller de l'autre côté, et il va chercher, il va dire à l'autre, tu vois, là, Steve, finalement, il m'offre plus que toi. Gros mensonge, mais c'est pas grave. Il m'offre plus que toi. Toi, tu dis combien ? Un opportuniste fait toujours monter les enchères pour que sa calculatrice puisse marcher encore. Et il va voir les uns les autres et il regarde ce qu'il peut toucher au dernier moment le plus possible. Ce sont des gens très calculateurs, les opportunistes. Et ça a été très rapide avec Lot. Lui, son ordinateur, il a marché très très rapidement. Quand Abraham lui a proposé, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas au nord, je vais au sud. Je suis sûr que dans sa cervelle, il a souri, il a même rigolé. Il a dû faire des yeux. Vous savez, comme les calculatrices, les vieilles calculatrices, ils avaient des trucs qui tournaient, etc. Il y avait dans des magasins des vieilles calculatrices, des vieux trucs là, des trucs à compter là, pour faire les additions là.
Vous savez,
c'était un peu comme les vieilles machines qu'on trouve encore au Congo. Les machines à écrire.
Alors,
c'était les vieux trucs qu'on appuyait. Alors vous appuyez sur les chiffres 2, 9, 5, et puis alors il y avait un truc qu'on levait. Ça faisait un boucan comme ça. Il
n'y
avait rien d'électronique dedans. C'était des histoires de trucs, de roues qui tournaient. Vous savez, comme dans les dessins animés avec Donald et Mickey. Là. Le gars, il fait... Et puis d'un seul coup, le truc, il tourne. Et puis les yeux du canard, ils sortent comme ça. Il fait des gros yeux parce qu'il voit que ça tourne et en même temps il compte ses dollars.
Voilà,
ça c'est l'opportuniste, il est calculateur. Ça tourne là-dedans, très vite. Et l'autre, ça a tourné très vite, il s'est dit de l'eau, des arbres.
Amaz, ibiti.
Et des villes.
Ibisagara.
Il n'y a pas photo, comme on dit en français, c'est-à-dire directement, mon choix c'est là-bas. Mais il y avait un problème.
Ariko, Haringoran.
Sodome et Gomorre.
Et
c'est ce qui va coûter toute sa destinée à Lot.
Donc
la première chose, les opportunistes sont des calculateurs.
Numéro 2,
ils voient tout de suite ce qu'ils peuvent avoir. Donc ils sautent sur l'occasion du tout de suite.
Numéro
3, ils ne voient jamais le futur. L'opportuniste, il voit ce que je peux toucher maintenant, mais il ne pense jamais aux conséquences futures. Les opportunistes, vous les revoyez toujours venir à vous. Quelques temps plus tard. Vous savez, comme les chiens qui ont les oreilles, qui, comme d'habitude, ils ont les oreilles comme ça. Et quand ils sont tout penauds, ils ont les oreilles comme ça et la queue entre les jambes, entre les pattes. Parce qu'ils ont fait une bêtise et qu'ils viennent vous demander pardon. Alors, ces gens-là reviennent toujours après pour essayer de restaurer les choses. Avec des excuses terribles. Parce qu'ils ont perdu la partie.
Et
ils reviennent. Vous les voyez revenir à vous un an plus tard, deux ans plus tard, cinq ans plus tard, dix ans plus tard. Ils ont sauté sur l'occasion et vous ont marché sur la tête, ou ils ont essayé en tout cas. Mais ils ne pensent jamais au futur, ces gens-là. Et ils se retrouvent vraiment parfois dans des situations terribles. La quatrième chose de l'opportuniste, c'est qu'ils sont souvent rétrogrades. Pourquoi ? Parce que leur convoitise les a fait calculer pour avoir le meilleur chiffre tout de suite. Au prix du spirituel. Et c'est exactement ce que Lot a fait. Lot, quelque temps plus tard, nous allons le voir, s'est associé à des gens qui faisaient les pires choses devant Dieu. Et toute l'influence spirituelle qu'Abraham avait sur lui, ça n'existait plus après. Il va se retrouver dans une situation terrible. Il va rétrograder jusqu'à être prêt même à donner ses filles à des gens qui auraient fait des choses horribles sur elles. Nous allons voir que cet homme, vraiment, ça a été terrible. Ensuite, ils font souvent naufrage. C'est la cinquième caractéristique que l'on peut voir. Leur vie devient un naufrage. Quand ils persévèrent dans ces choses-là, vraiment c'est terrible. Ils se retrouvent des années plus tard à faire naufrage, leur destinée est complètement ruinée. Alors après qu'ils se soient séparés, c'est intéressant, verset 14. Il va y avoir quelque chose qui va se passer avec Abraham. Abraham va recevoir sa troisième révélation. Alors, verset 14, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'est et vers l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus la compter, que l'on peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays de long en large, car je te le donnerai. Donc ici, Dieu va se révéler une troisième fois à Abraham. Il y a parfois des relations qui empoisonnent votre vie spirituelle et qui vous empêchent d'avancer avec Dieu. Tant que vous n'êtes pas séparé de cette relation, vous stagnez dans votre vie spirituelle. Il y a certaines personnes, c'est leur problème. Ils sont là, ils sont dans des relations bizarres, ou des gens qui les influencent mal, ou des gens qui leur créent que des problèmes. Et ils restent avec eux.
bakagumana nabo.
Et ça les empêche de recevoir une nouvelle révélation de Dieu.
Bikababuza gutera imbere kuronka irindi hishurirwa
ry'Imana. Ça c'est la première chose qu'on voit dans ces versets.
Icyo ni kintu cy'ambere tubona muri uyu murongo.
La deuxième chose que l'on voit,
icyakabiri tubonamo,
c'est que Dieu dans cette troisième révélation, comme je vous l'expliquais, va encore plus dévoiler son plan à Abraham, sa volonté spécifique.
Muri hishurirwa rigira gatatu, Imana yongera gutera intambwe mu kwereka Abraham icyimuteguriye, icyimuhamagariye.
Je vous le rappelle et je vous le répéterai toujours. Dieu ne vous révélera pas toute sa volonté de A jusqu'à Z dans les moindres détails de la première fois. Non, Dieu vous donne les grandes lignes. Rappelez-vous de l'histoire du continent, puis du pays, puis de la ville, puis de la rue, puis du numéro. Donc la précision, c'est sur le numéro. Entre-temps, est-ce que c'est sur quel continent? Et Dieu fonctionne comme ça toujours. Dieu fonctionne en nous donnant les grandes lignes, puis plus on obéit, plus on marche dans la foi, plus on avance.
Lui
va nous donner une autre révélation qui va être plus précise sur sa volonté.
Il
nous teste encore et si on passe l'examen, hop, on continue et Dieu à ce moment-là se révèle à nouveau à nous. Mais je vous rappelle, ne cherchez pas pendant des jours et des jours de jeûne et prière la volonté précise de Dieu dans tous les détails sur son plan. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez vous parler à vous-même ou il y a peut-être des esprits sataniques qui vont commencer à vouloir vous influencer. Laissez Dieu être Dieu et se révéler comme il veut se révéler à vous. Obéissez et continuer. Ça va être la clé encore d'Abraham. Donc Dieu lui donne plus de précision, il lui dit maintenant c'est ce pays-là, maintenant circule, c'est ce pays que je vais donner à ta descendance.
Et
nouvelle révélation complémentaire. Je vais rendre ta postérité aussi nombreuse que la poussière de la terre. C'est là où Dieu va lui parler sur le, entre guillemets, le nombre de sa postérité. Ça, c'est une nouvelle révélation. Qu'à partir d'Abraham, il va y avoir une postérité gigantesque. Dieu avait dit qu'il donnerait le pays. La révélation précédente, la deuxième révélation, c'était je te donner ce pays, le pays de Canaan, à ta postérité. La première révélation, c'était pars du pays, là, de ta patrie, là, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai.
Vous
voyez, on a vraiment une précision de plus en plus dans la révélation sur sa volonté. Alors, ce qui est intéressant maintenant, on va clôturer avec le verset 18. Il est dit, Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chêne de Mamré à côté d'Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel.
Abraham, yunguruza mahema, aragenda, abiruhanda y'ibiti vya Mamure, vyitwa Imyeroni, biri Heburoni, ahubakira Uhoraho igicaniro.
Dans ces deux noms mentionnés, il y a des images ici. Là, Abraham a compris que tant que Dieu lui disait, lui avait donné une instruction, il devait rester dans cette instruction. Pour faire quoi? Pour se préparer. Là, il avait compris. Et c'est intéressant parce que ces deux mots ici, ces deux lieux, Mamré, ça veut dire force, vigueur.
Mamure bisobanura ngo inkomezi,
force, vigueur. Et Hébron, ça veut dire communion. Donc là, bien sûr, il y a des images pour nous. Lorsque Dieu t'a parlé, tu n'es pas prêt. Tu dois te préparer. Tu dois te fortifier. Ne commence pas à vouloir agir sur une parole de Dieu comme ça, sur ta destinée, parce que tu vas te tromper. C'est la précipitation, on en a parlé. C'est l'erreur de la majorité des gens qui se plantent quand ils veulent accomplir leur destinée et ils feront ce que Abraham fera d'ailleurs, Ismaël.
Ninikosa abantu benshi usanga bakoze bagakora kumwe Abrahamu yakora bakabyara Ismaeli mu byo bakora.
Là, Mamré, c'est se fortifier dans le Seigneur.
Mamurenga hano kuvuga ngo kwikomeza mu Mana.
C'est cet aspect où tu dois apprendre jour après jour.
Ni hamwe ugenda wiga
à te nourrir de la parole.
Kumunsi kugira ijambo ry'Imana.
À te fortifier dans la foi.
Gukomera mu kwizera.
À devenir quelqu'un de fort.
Ukaba umunyenkomezi nawe.
Et Hébron,
Hebron,
c'est l'image de la communion, de développer sa communion avec Dieu.
Il
y a beaucoup de gens qui sont impatients et qui veulent courir tout de suite. Mais quand tu es faible, si tu cours, tu ne courras pas longtemps. Et si ta communion avec Dieu n'est pas forte, tu pourras dévier dans n'importe quoi. Parce que peut-être que tu vas chercher les choses de l'esprit, comme certaines personnes qui dévient en disant le Saint-Esprit, blabla, et au bout d'un moment, c'est leur chair, et plus tard, s'ils continuent à persévérer là-dedans, ce sont des esprits mauvais. Et ils s'égarent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une communion assez forte avec Dieu pour savoir exactement si c'est Dieu qui leur a parlé ou pas. Donc avant d'accomplir sa destinée, il faut se préparer. Quelles que soient les années que ça demande, peu importe. C'est là où si tu veux te précipiter, tu vas te tromper. Et tu passeras à côté de ce que le Seigneur voulait faire pour toi. On continuera la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.